Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Ces jours de budget à Ottawa, quelle sera l'ampleur du déficit? Où on va aller chercher davantage d'argent? Marc-André, Yasmine, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Allô, allô.
Alors, c'est des questions qui sont dans l'air actuellement parce que, Yasmine, on s'inquiète. Si on ne veut pas franchir la barre du 40 milliards de déficit, on n'aura pas le choix. Il va falloir aller piger dans les poches de certains.
Oui, et il y a aujourd'hui une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le strip est terminé.
Oui, enfin. On ne pouvait plus.
Il culmine avec les souliers de Christopher Freeland. Là. On a vu qu'hier...
À 230 pièces.
Je ne sais pas c'est quoi le message. D'habitude, on essaie de nous envoyer un message avec l'achat de souliers. On se rappelle d'un Raymond Bachan qui a emmené ses souliers chez le cordonnier lorsque c'était un budget qui était difficile. On se rappelle d'un Éric Girard qui est parti chausser des patins parce que le Québec allait être plus vite, plus loin. Là, c'est des souliers. On peut pas dire qu'ils coûtent pas cher. On peut pas dire qu'ils coûtent extrêmement cher. Ils coûtent 200 $. Mais ils semblent déconnectés de la réalité, un peu comme le budget qu'on va nous présenter aujourd'hui. Déconnectés de la réalité économique des Canadiens et du Canada par rapport à l'international. Ce que je vais surveiller, c'est le déficit va être de combien. C'est sûr qu'il va être beaucoup plus que ce qu'on nous avait présenté à la mise à jour économique. Qu'on ne vient pas nous faire croire que ça va être la même chose avec toutes les annonces qu'on a faites dans les dernières semaines. Et la deuxième chose que je vais surveiller, c'est la colonne des revenus. Parce que quand le gouvernement va taxer, là, que ce soit les plus riches ou les moins riches, quand il va taxer, c'est qu'il n'arrive pas à mousser des revenus, c'est qu'il n'arrive pas à créer de la richesse, c'est qu'il n'arrive pas à générer des revenus autres que par la fiscalité des particuliers. Et ça, c'est jamais une bonne nouvelle. Un gouvernement qui dépend de la poche des contribuables, soit-il riche ou moins riche, là, c'est jamais une bonne nouvelle. Il devrait lui-même créer de la richesse, normalement avoir des entreprises, des investissements qui vont pouvoir développer des filières, qui vont pouvoir lui ramener des recettes fiscales qui n'ont rien à voir avec les contribuables pour pouvoir les investir. Alors moi, je m'inquiète quand ils disent qu'ils vont aller chez les ultra-riches. Parce que ultra riche, là, pas sûr que c'est des personnes qui gagnent des millions de dollars. J'ai l'impression que c'est la classe moyenne supérieure, encore une fois, celle qui paye déjà des impôts, chez qui on va encore aller piger.
Ben, c'est ça, Marc-André, c'est intéressant cette question-là. À partir de quelle strate t'es considéré comme riche au Canada? On vise aussi les grandes corporations, là, selon ce qu'avance le Globe and Mail.
Ouais, l'an dernier, dans son budget, Mme Freeland avait ciblé là, les Canadiens qui gagnaient 300 000 $ et plus. Là. Donc, ça, c'était une chose. Mais là, ce qui est le gros point d'interrogation pour moi, c'est clair qu'ils vont aller chercher plus d'argent parce que ce qu'on me répète du côté d'Ottawa depuis plusieurs jours, là, c'est que cette braquette-là, cette fourchette-là d'un déficit autour de 38, 39, 40 milliards, là, ça va être là. On nous dit que ça va être là, puis que Mme Freeland, puis quand j'additionne ce que Mme Freeland a dit dans les derniers jours, bon, fait que pour y arriver, avec l'ensemble des annonces qu'on fait depuis le 28 mars, on parle d'environ 38, 39 milliards, 17 milliards en prêt, puis la balance, là, c'est en subvention, en financement direct, c'est qu'ils vont monter, les sources de revenus vont monter considérablement, là, au cours des 5 prochaines années, là, c'est clair, là. Et là, on a le spin qu'on voit dans les médias ce matin, c'est qu'on cible les plus riches puis les sociétés. Mais est-ce que ça va vraiment être ça? Parce que là, moi, ce que je me pose la question, c'est que c'est tellement important les sommes qu'il faut aller chercher. On peut pas juste cibler ceux-là qui gagnent 750 000 par année. Là. On n'arrivera pas.
Il n'y en a pas tant que ça au Canada.
Non, c'est là. Et là, hier, je me suis dit, hier soir, en me préparant pour la journée d'aujourd'hui, on va parler du budget. J'ai dit, c'est quoi les idées? Là? C'est quoi les options qu'ils ont devant eux? Puis, quand tu regardes la plateforme des libéraux en 2021, tu n'en trouves pas vraiment là, qui vont te permettre d'aller chercher des milliards par année ou sur 5 ans. Mais je pense que la réponse à nos questions, là, c'est à la page 41 de la plateforme du NPD. Là.
Ah oui, c'est quoi?
Page 41-42. Mais on parle d'augmenter l'inclusion sur le gain en capital. On parle de taxer les plus riches, d'augmenter le taux d'imposition des sociétés, de faire d'augmenter une taxe sur les surprofits, également les produits de luxe. C'est pas dans la plateforme libérale, là. C'est tout ça. C'est dans, puis ce qu'on voit, ce qu'on peut lire, tantôt tu faisais référence en entrée de jeu du Globe and Mail, tout ce qu'on lit dans, sur CBC, Radio-Canada, dans le Journal de Montréal, un peu partout, mais tous les potentiels où ce que les fiscalistes économistes ont suggéré au gouvernement se retrouvent à la page 41-42 de la plateforme du NPD en 2021.
C'est un très bon point, Marc-André, ce que tu viens d'amener là. Donc, c'est pas un budget à l'encre rouge, c'est un budget à l'encre orange. Orange du NPD, mais je suis pas rassuré, là. Dans l'esprit de Jack Meeting, très de gauche, à partir de quand t'es riche? T'es riche à quand?
Très tôt. Très, très tôt.
Ben, t'sais...
Dès que tu fais un peu d'argent, t'es trop. T'es riche. Là, t'sais, moi, je suis toujours impressionnée par les mots qu'on utilise. Taxer les surprofits. C'est quoi un surprofit? On peut-tu nous l'expliquer? À partir de quand, au Canada, quand tu fais un profit, c'est plus bon? À partir de quel niveau de profit pour une entreprise tu rentres dans la braquette des surprofits? Là, on va-tu avoir des fonctionnaires qui n'ont jamais entrepris de leur vie, là, qui n'ont jamais fait une entreprise, géré une entreprise, dégagé des profits, qui vont commencer à juger « Ouais, non, t'as bien trop, l'entreprise, ça fait trop d'argent, là, tu vas payer plus. » C'est quoi un surprofit? Ça, pour moi, c'est un champ lexical qui a été inventé par la gauche pour faire sentir mal et pour punir de manière détournée les entrepreneurs qui réussissent, les entreprises d'ici qui réussissent. Et qu'est-ce que ça envoie à l'international alors qu'on a un gros défi en matière de générer des revenus, là?
Venez pas
c'est
ici.
Qu'on n'est pas vraiment un environnement d'affaires. Venez pas chez nous. Venez pas chez nous parce que nous, on n'aime pas ça le profit. On n'aime pas ça les entreprises. Puis si tu fais un tant soit peu d'argent, ben, tu vas être taxé. Honnêtement, là, j'ai hâte de voir ce discours-là, mais, c'est un budget NPD, comme le disait Marc-André. Là, c'est le NPD qui dépose son budget, puis c'est Christophe Freeland qui va le lire.
Oui, puis surtout que c'est sûr que si on fait un sondage demain matin, puis êtes-vous d'accord pour qu'on taxe davantage ceux qui gagnent 1 million par année? Là, ben c'est sûr que toutes les personnes qui gagnent pas 1 million par année vont dire hey, oui, bravo, t'sais, vas-y, fais ta part. T'sais. Mais déjà qu'au Canada puis au Québec, on a un taux d'imposition qui est progressiste. Donc, plus tu gagnes d'argent, plus tu vas payer d'impôts. Ça, c'est une chose. Mais également, c'est le message que ça envoie. Là, c'est un gouvernement qui fait 2 semaines des annonces, qui arrête pas de dépenser, puis que les gens, là, qui en 2 semaines, là, dépensé 40 milliards, puis avec des prêts, puis des subventions, tout ça, c'est tous les jours tu dépenses. Puis là, à la fin, mais tu dis pour balancer, je m'en remets en quoi? Je me remets pas en fait qu'on a une croissance économique plus élevée. C'est que je vais piger de l'argent dans la poche des gens, là, qu'ils soient millionnaires ou pas, que ces gens-là. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est tellement important les sommes qu'ils doivent aller chercher pour garder leur fameux autour de 40 milliards puis conserver leur fameux ratio dette PIB, que ça peut pas être juste les ultra-riches, là. Il y a des mesures, j'ai hâte de voir l'étendue des mesures, oui, puis après ça, aussi. Des analyses des fiscalistes, parce que ça peut pas juste être ça, là, parce que là, il faut aller chercher du 3, 4, 5 milliards par année, là. Parce que pour les chiffres, là, ce qui est important en plus, c'est que Mme Freeland, ça fait 2 semaines qu'elle spin 40 milliards, là. OK, mais elle fait un spin en surestimant le déficit, parce que sa projection de v'là un an, là, pour cette année 24-25, c'était 35 milliards. Après ça, elle est arrivée à l'automne avec un 3 milliards de plus, à 38, et là, elle nous dit 40. Fait que même elle, on va dire peut-être 5 milliards, c'est pas beaucoup, là, mais même elle surestime ce qu'elle avait annoncé v'là un an de 5 milliards pour l'année 24-25. Là. Fait que ça va être intéressant de voir où ce qu'elle va terminer, mais c'est clairement aujourd'hui là. Mais je pense que ça va être même un défi de communication pour Mme Freeland et son équipe. On voit qu'ils n'ont pas été très 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 bons sur la taxe sur le carbone. Là. Fait que s'il faut qu'il y ait là une petite faille là, surtout pour M. Poilievre là, qu'elle va dire c'est pour les ultra riches, mais que finalement l'application est pour des gens de la classe moyenne là. Mme Freeland va trouver le temps long.
Oui, non, c'est clair. Revenons sur le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon au Conseil national du Parti québécois à Drummondville. On a parlé, oui, d'habitation, d'immigration, mais ce qui a retenu l'attention, c'est le discours enflammé sur la souveraineté. Selon PSPP, ben, il y aura un référendum d'ici la fin de la décennie. On parle du référendum de la dernière chance. Est-ce que, Marc-André, t'es d'accord avec la sortie des partis d'opposition en disant que c'est une position radicale?
Non. Ben, je veux dire, que le PQ dise qu'il tient un référendum, moi, je trouve pas ça radical ou extrémiste ou peu importe, là, les mots du même genre. Là. Je veux dire, moi, j'aime ça, voir un chef du Parti québécois qui s'assume,
ben
qui
oui.
dit, qui va en faire un. Là où je suis peut-être un peu, je suis moins d'accord de ce qu'il dit que le Canada veut effacer le Québec. Là, ça c'est de jouer sur la peur. Là. Je pense pas que c'est le cas. Est-ce que les politiques de Justin Trudeau sont habiles présentement en termes d'immigration? Non, ils sont pas très bonnes pour le Québec, mais ils sont pas plus bonnes pour l'Ontario, la Saskatchewan, puis la Colombie-Britannique, parce qu'eux aussi ont des défis. La crise du logement, là, elle est partout présentement, pas juste au Québec. Non, je trouve pas que c'est radical. Moi, ce que j'ai moins aimé, cependant, c'est le côté comme, tu sais, c'est sûr qu'il va en avoir un prochain référendum, c'est sûr qu'on va voter d'ici 2030, quand moi, je suis convaincu qu'à l'interne, même si le PQ remporte en 2026, puis s'il voit que la souveraineté est encore à 35%, c'est pas vrai que les péquistes vont aller faire un référendum perdant, là. Hein, quand Bernard Landry nous parlait des conditions, tu sais, on est dans le passé sur Bernard Landry, Lucien Bouchard, tu sais, d'avoir les conditions gagnantes, là. Puis Monsieur Landry avait dit en 2003 d'avoir la certitude morale de le gagner.
Oui, je m'en rappelle.
Ben ça reste que les gens avant lui, là, avant Monsieur Saint-Pierre Plamondon, tu sais, Lucien Bouchard puis Bernard Landry, là, c'est pas des deux de carreau, là. Tu sais, je veux dire, ils ont pensé à leurs affaires, là. Puis c'est sûr qu'ils n'allaient pas amener le Québec à un référendum perdant. Si M. Saint-Pierre Plamondon veut nuire au Québec et à sa formation politique, là, qu'il se lance dans un référendum perdant où l'option du oui terminerait à 38, 39, 40 ben là, ça serait vraiment la fin pour sa formation politique. Puis également, ça serait un œil au beurre noir pour le Québec.
Yasmine?
Moi, je pense pas que c'est radical. Par contre, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon oublie qu'il a besoin de se faire élire en 2026 avant de pouvoir faire son référendum.
Comme une étape importante, hein?
On dirait que ça y est, là, les intentions de vote sont claires. Là, les Québécois se sont déjà prononcés. Je vais être premier ministre 2026. Ben, y a un petit détail qui s'appelle une élection dans laquelle il peut y avoir de l'incertitude. Donc, on ne peut pas dire qu'il est certain qu'on va avoir un référendum d'ici 2030. Non. Il y a une étape importante, c'est celle de se faire élire. Avec tout le discours qui vient sur le référendum, c'est quand même une étape importante. Puis ça peut être interprété par plusieurs comme de l'arrogance. Tu sais, avoir de l'arrogance, c'est dire, être arrogant, c'est dire, moi, d'ici 2030, là, c'est sûr, vous allez voir un référendum. Ouais, mais la prochaine étape, c'est de se faire élire. La prochaine étape, c'est de dire aux Québécois qu'on a un plan. La prochaine étape, c'est de parler aussi de santé, d'éducation. Les Québécois ont besoin de ça. C'est correct pour le référendum, mais autrement, là, il n'y a pas juste le référendum qui est une urgence. Il y a d'autres éléments. Et j'ai l'impression que M. Paul Saint-Pierre Plamondon oublie ça. Puis il faut pas oublier non plus qu'un électeur péquiste sur quatre est contre la souveraineté. Et fédéraliste, là, est contre la souveraineté. C'est décrit. Fait que, quand il parle même à ses électeurs, là, il peut en faire fuir. C'est important. Tu sais, là, il est rendu au sommet des sondages. Il faut s'y maintenir. Il faut pas faire pour exprès pour descendre des sondages. Ça va être toute une job que de maintenir un discours cohérent, un discours qui rejoint les Québécois pendant les prochaines années.
Je sais pas si vous avez pris Monsieur Saint-Pierre Plamondon avec notre collègue Mario Dumont là, hier avant midi, et Monsieur Saint-Pierre Plamondon disait que sur la scène, il a changé un mot dans son discours.
C'est ça là, il était pris d'émotion.
Le mot certitude là, il le dit là, c'était dans l'émotion là.
C'est pas ça qui est écrit dans son texte.
Dans son discours, c'est marqué évidence, donc c'est évident. Ça, c'est dangereux. OK, parce que dans un sujet comme ça, qui divise le Québec, où t'as des gens qui sont pour le oui, pour le non, ou entre les deux, ben là, si tu commences à changer des mots sur la scène, là, à 2 ans et demi de l'élection, là, ça va être quoi rendu en campagne, là? Hein, qu'il va être, s'il est énervé, puis que là, il trouve que la campagne va bien, puis qu'il est à une semaine du pouvoir, puis je pense qu'il y a un apprentissage là, pour M. Saint-Pierre Plamondon dans des enjeux comme ça, puis tout autre enjeu de changer des mots sur la scène, parce que tes mots avant, là, dans la préparation, t'es opposé, t'es analysé, qu'est-ce qu'on dit, est-ce qu'on fait un crescendo, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire dans 6 mois, qu'est-ce qu'on va dire rendu à la campagne. Il y a un apprentissage. Là. Si j'étais dans l'entourage de M. Saint-Pierre Plamondon, là, je dirais, Paul, fais plus ça.
Parlant de déclarations qui font réagir, Québec solidaire pense que les immigrants peuvent contribuer à régler la crise du logement. Non, Yasmine, Est-ce qu'ils sont allés à la même école que Marc Miller, qui pense que les immigrants vont bâtir des maisons?
Ben, on dirait. Bon, en fait, c'est pas pour dire qu'ils ont raison, mais ils n'ont pas tout à fait tort. Évidemment, l'industrie de la construction est une industrie qui connaît une énorme pénurie de main-d'œuvre et qui fait en sorte que ça ralentit les mises en chantier, incluant ceux des logements sociaux, des logements abordables et des logements tout court. Parce que, tu sais, on parle souvent des logements sociaux et abordables, là, mais construire des condos là permet à du monde d'acheter des maisons et de libérer des logements existants. Ça aussi, ça fait partie de la mécanique. Alors, ils ont pas tout à fait tort. Par contre, ce n'est pas l'industrie de la construction ne mise pas sur l'immigration pour pouvoir remplir cette pénurie de main-d'œuvre. Du moins, pas juste sur l'immigration. Une question de formation, une question de rétention, parce que beaucoup de travailleurs de la construction quittent le monde de la construction, notamment les femmes. Donc, je trouve ça malheureux comme raccourci, mais je ne veux pas leur lancer la pierre parce qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Mais c'est pas un narratif qui fonctionne au Québec. Là, il faudrait qu'ils changent de cachette.
Marc-André?
Ben, c'est parce que là, ils disent en plus que c'est un programme pour des gens qui seraient déjà ici, qui s'engageraient à suivre une formation, qui ont déjà passé du temps dans le domaine de la construction. Tu sais, je veux dire, là, il y a beaucoup de conditions, puis il y a beaucoup de si dans leur patente, là, tu sais, de suivre une formation, de rester là. Ces gens-là, ça leur tend dessus de la construction. Dans le fond, c'est ce qu'ils disent dans leur communiqué de presse, c'est mettons un demandeur d'asile, s'il s'engage là, dans la construction, ben il va pouvoir rester ici là, plus rapidement que quelqu'un qui décide d'aller travailler dans un autre secteur d'activité. Là. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ces gens-là ont une passion pour la construction? C'est pas un milieu qui est évident, là. Je veux dire, c'est des longues heures de travail. Tu commences tôt le matin, il faut avoir des habiletés, il faut que tu sois manuel. C'est un peu comme durant la pandémie. On a dit aux gens, venez travailler comme préposé aux bénéficiaires. On va vous former rapidement. Vous allez pouvoir aller travailler dans les CHSLD. Ben aujourd'hui, on voit dans les chiffres qu'il y en a plusieurs qui ont quitté, là, parce que ça prend quand même, faut quand même t'aies le goût de faire ça. Mais là, dans le fond, Québec solidaire dit à ces gens-là, ben allez-vous-en dans la construction. Puis vous allez pouvoir rester ici, vous allez avoir vos certificats. C'est bien beau sur papier, mais en réalité, combien t'en gardes après 2 ans, 3 ans, ça, je suis moins certain.
Mais hâte de voir, mais les probabilités que ce soit toutes des charpentiers menuisiers sont assez minces. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux.
Au revoir.